Bonjour. Après ces quelques difficultés techniques qu'on rencontre toujours dans ces circonstances, je voudrais présenter mes deux invités d'aujourd'hui pour notre dernier séminaire consacré à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans l'Antiquité. Dans le cours que j'ai donné la semaine dernière, j'avais abordé la question de l'utilisation de l'énergie hydraulique dans l'industrie, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire non seulement dans les mines, ce que nous allons revoir aujourd'hui, mais aussi dans l'utilisation pour les tanneries, etc. Et nous allons aujourd'hui, grâce à mes deux invités que sont Claude Domer d'un côté et Jean-Louis Borde de l'autre, aborder de façon beaucoup plus précise un cas qui est celui des mines d'or d'Espagne. Et avec ce double regard, donc, de l'archéologue et de l'ingénieur. Je présente d'abord Claude Domergue, qui va expliquer de quelle manière les anciens exploitaient les mines d'or du nord au ouest de l'Espagne. Claude Domergue, dont je dois dire que je suis quand même très impressionné parce que c'est d'abord un homme de terrain et donc je me retrouve totalement en lui et je me sens comme un successeur en quelque sorte, même si je ne travaille pas sur le même sujet que lui. C'est un homme qui est plein d'énergie, il va nous parler de l'énergie hydraulique, mais il en a lui-même énormément. Il a commencé sa carrière d'archéologue au Maroc, mais principalement ensuite en Espagne, où il a été membre de la Casa de Velázquez, c'est-à-dire l'école des hautes études hispaniques, de 1963 à 1967. Et à partir de cette époque, il a commencé à s'intéresser de très près aux mines d'argent, d'or d'Espagne, mais pas seulement, puisqu'il a aussi ensuite travaillé, lorsqu'il a été nommé professeur à Toulouse, sur les mines de fer de la Montagne Noire, et notamment ce formidable site qu'il a eu l'occasion de fouiller, qui s'appelle Les Martis, et qui ferait l'objet d'ailleurs de bien d'autres séminaires. Mais aujourd'hui, il va donc nous parler des mines d'Espagne, et je crois que, sans forfanterie, on peut dire que c'est quand même le meilleur spécialiste de cette question, au moins en France. Et il a écrit plusieurs ouvrages sur la question, un catalogue des mines ibériques, et puis plus récemment, un ouvrage, une synthèse sur les mines dans l'Antiquité, qui est paru dans la collection Antiqua chez Picard, et que je vous recommande vivement. Son activité professionnelle continue aujourd'hui, alors qu'il est émérite depuis déjà un certain nombre d'années. Et on peut donc non seulement le remercier d'être venu ici, mais aussi le remercier de continuer à travailler aussi activement dans ce champ de recherche qu'il connaît parfaitement. Et évidemment, les archéologues ne sont pas omnicompétents, comme vous le savez, et lorsque nous abordons ces questions techniques, il vaut quand même mieux que nous nous appuyions sur des gens qui ont des connaissances techniques que nous n'avons pas. Et Claude Domergue a donc travaillé, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avec l'ingénieur Jean-Louis Borde, qui n'est pas directement un homme de terrain au sens qu'il n'a pas forcément fait des fouilles, mais que c'est un homme de terrain de notre point de vue, puisque étant ancien élève de l'école centrale d'ingénieurs, il a passé toute sa carrière professionnelle sur le terrain, et notamment le terrain des barrages, et dans le cadre d'une entreprise qui s'appelle Coin et Bélier, et il a eu l'occasion donc de travailler principalement sur ces questions, mais il a donc passé à cette occasion une thèse de doctorat directement liée à l'étude des barrages et des flux, mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a commencé en quelque sorte une seconde carrière d'ingénieur spécialiste d'histoire des techniques, en passant une autre thèse de doctorat sur les barrages, non pas les barrages d'aujourd'hui, mais les barrages du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, sous la direction de Denis Voronoff à l'Université de Paris 1. Et depuis, il continue donc de travailler, soit avec des archéologues, et là nous allons voir le cas de l'étude de la mine de Las Melillas en Espagne, mais aussi sur d'autres types de sites, comme les thermes de Barzan. Vous savez, ce sont ce beau site le long de la Gironde qu'a fouillé ces dernières années Alain Bouet. Et à l'occasion de la fouille des thermes, a été mis au jour les restes d'une noria qui a fait donc l'objet d'une étude par Jean-Loïc Borde et Sophie Coadic, qui éclaire beaucoup de nos connaissances sur ces machines élévatrices. Et outre cela, donc, il s'intéresse particulièrement à l'histoire de sa propre école et il travaille en ce moment sur la destinée, en quelque sorte, des anciens élèves de l'école centrale. Et donc, nous le remercions d'être venu ici pour présenter ses travaux. Je laisse donc, après cette présentation un peu rapide, la parole à Claude Domergue, qui va nous parler de ce site absolument formidable de Las Medulas.
Bon, mais je peux rester assis un petit moment, peut-être. Hein. C'est parti, c'est pas grave.
Peut-être qu'il faut appuyer, il y a peut-être un bouton.
Je peux commencer. Hein. Je peux commencer parce que. Oui, eh bien, je commence. Je remercie Jean-Pierre Brun de m'avoir invité dans cette noble maison. C'est toujours impressionnant pour un provincial de venir parler au Collège de France, surtout quand c'est la première fois. Voilà. Merci. Alors là, on entend là. Bon, je coupe ça alors. Et je mets ça dans la poche. Très bien. Bien, je vais vous parler de ce problème qu'a évoqué Jean-Pierre Brun, mais je voudrais commencer d'une manière un peu différente. Je me souviens d'un matin d'hiver de l'année, enfin d'hiver 45-46. J'étais en troisième, j'avais une version latine à faire. Il neigeait dehors. Cette version latine, c'était une partie de la lettre que Pline le Jeune a écrite à Tacite pour lui dire dans quelles circonstances son oncle, Pline d'Ancien, était mort sur une plage près de Stabie le jour de l'éruption du Vésuve. Du 24 août 79. J'étais très content parce qu'il me semblait que pour la première fois, j'avais vécu avec ce texte, je l'avais compris, et c'est peut-être ma première sensation positive avec la littérature latine. Ce fut aussi mon premier contact avec Pline l'Ancien. J'étais tout jeune, j'admirais ce monsieur que je considérais comme un vieillard, il avait 56 ans seulement, mais il était parti, il était allé au secours de son ami Pomponianus. Il voulait aussi voir ce que c'était ce grand nuage de cendres qui planait sur le golfe, et il avait pris cette tablette pour noter tout cela. Donc j'étais plein d'admiration pour ce vieux monsieur. Et puis, ce monsieur, je l'ai retrouvé plus tard. C'était en 1964. J'étais à Madrid et je commençais à travailler sur les mines romaines d'Espagne. J'essayais de me documenter au maximum. J'avais vu les textes de la littérature latine qui se rapportaient à cette question et j'étais bien entendu tombé sur ce magnifique texte que vous avez là-bas. Ah, il faut que je me déplace. Ce texte du livre 33 de l'Histoire naturelle, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, voilà. Ce texte dans lequel Pline indique que c'est un passage important sur l'or, il indique que pour trouver de l'or, il y a trois manières. On le trouve dans l'eau des rivières, des ruisseaux, dans les sables, et on le lave à la battée comme les chercheurs d'or le faisaient, comme Charlot le faisait dans la rue et vers l'or. Deuxième manière, eh bien, ce sont des mines souterraines. On travaille sur des filons primaires et on sort l'or qui, dans les niveaux supérieurs, est libre. Donc on l'obtient en creusant des puits de mines. Et puis la troisième manière, c'est la ruina montium. La ruina montium, l'effondrement des montagnes. Alors vous avez ici le texte latin, de l'autre côté, une traduction. Et je n'ai gardé du texte, il y aura quatre diapositives, je n'ai gardé du texte que ce qui concerne cette quatrième manière, puisque c'est celle qui nous intéressera ici. Alors tout cela se passe en Espagne, dans trois passages de ce texte, les montagnes, et vous verrez que ce ne sont pas n'importe quelles montagnes, ce ne sont pas toutes les montagnes d'Espagne, ce sont celles que Pline a dans la tête. Ça se passe en Espagne et la troisième méthode d'exploitation, l'effondrement des montagnes, la ruina montium, dépasse les travaux des géants, comme vous le voyez ici. Alors c'est ce procédé sur lequel nous allons travailler ce matin. La suite, c'est... Alors j'ai divisé, les intertitres sont de moi, j'ai divisé ce texte en trois parties. D'abord, il faut abattre des terrains, ce sont des terres, nous verrons plus loin ce qu'elles sont en réalité, et on fait des galeries, et puis on sous-cave la montagne, les montagnes, ça s'effondre, tout ceci est décrit, on y reviendra plus loin. Pour l'instant, je me contente d'une description rapide, mais vous pouvez lire le texte latin et la traduction française à côté. Ça, c'est donc la première partie, l'effondrement de ces montagnes qui sont des montagnes d'alluvion, et nous allons voir ce que l'on fait ensuite. Ensuite, pour dégager l'or de cette gangue terreuse, il faut utiliser de l'eau. Bien sûr, pas comme les... laveur d'or qui travaille avec une battée dans le lit d'une rivière avec peu d'eau, mais il faudra quand même des quantités d'eau plus considérables. Et nous verrons qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, il faut laver, comme il l'indique, ad flumina ad lawandam anc ruinam. Il faut laver ce matériau aurifère pour dégager les paillettes d'or. Pour cela, il faut de l'eau. Et nous avons deux ou trois paragraphes qui décrivent la construction du réseau d'aqueduc qui alimentait Anneau, le site dont il parle. Ensuite, nous continuons. Et le troisième point, avec une conclusion, le troisième point, c'est comment on traite les terres aurifères, ça, ce sera très rapide, et surtout, l'utilisation de l'eau pour évacuer tout ce qui est stérile dans ce type de gisement, et nous verrons qu'il y a beaucoup de terres stériles. Et la conclusion, nous la commenterons tout à l'heure, avec un chiffre que donne Pline, qui est surprenant une fois que l'on connaît la teneur en or, les conditions de gisement de l'or dans ce type de gisement. Et nous commenterons cela à la fin de l'exposé. Donc maintenant, je vais laisser ici le texte de Pline. Voilà, on va commencer par ici. Alors Pline l'Ancien a écrit ce texte. Les mines dont il parle sont situées en Espagne, et plus précisément dans le nord-ouest. Si vous avez bien vu tout à l'heure, j'y reviens ici, voilà. Selon certains, l'Asturie, la Galice et la Lusitanie, c'est le nord-ouest de la péninsule ibérique et l'ouest, produisent de cette façon 20 000 livres d'or par an, la plus grande partie provenant de l'Asturie. Nous sommes dans cette région, dans les Asturies, chez les Astures, qui, à l'époque romaine, ont été divisés en deux. Il y avait les Astures Augustanis, qui étaient autour de la ville qui aujourd'hui est près de León, qui s'appelle Astorga, Asturica Augusta, et puis les Astures transmontagnes, ceux qui sont de l'autre côté de la cordillère et qui regardent l'océan Atlantique, le golfe de Gascogne. Donc, nous sommes dans cette région. Pline, je crois, a vu ce qu'il raconte, vous en verrez des preuves tout à l'heure, c'était un monsieur qui a été en 73 ou en 75 après Jésus-Christ, procurateur financier de l'Espagne citérieure, l'Hispania citérieure, dont dépendait cette région des Astures. Je pense qu'il a vu la chose et il en parle, vous le verrez, un homme compétent, mais qui ne dédaigne pas quelques effets littéraires qui soulignent l'intérêt qu'il portait à cette description. Donc nous allons attaquer maintenant ce site de Las Medulas, qui est, je crois, celui qu'a vu Pline. Il n'y en a pas beaucoup dans ce secteur. Ce qu'il va décrire ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une technique qui n'a pas été employée souvent. C'est un site phare, mais il n'est pas multiplié par plusieurs autres sites. En réalité, il y en a un autre qui pourrait lui être comparé, mais il n'a pas l'ampleur et il n'a pas ce réseau d'aqueducs que nous connaissons à Las Medulas. Déjà au XVIIIe siècle, des gens cultivés, des humanistes, l'ancien ministre, le ministre de Charles III, Jovellanos, qui était asturien, dans ses diarios, en passant près de cette région, on dit qu'il y a des mines d'or romaines dans le secteur. Un autre érudit, qui s'appelait José Cornide, lui va un peu plus loin et dit que ce sont vraisemblablement les mines dont parle Pline. Et puis, fin 18e, début 19e, les choses se précisent. Il y a un ingénieur militaire qui s'appelle Muñariz qui vient et qui dit oui, il cherchait lui des mines de fer. Mais il voit cela et il dit que c'est vraisemblablement les mines de Pline. Et un auteur romantique, un romancier, qui s'appelle Gil y Carrasco, dans une description, dans un voyage de Galice à la Corte et jusqu'à Madrid, s'arrête à Las Medulas, il visite, il pénètre dans des galeries, etc. Pour lui, c'est vraiment le site dont parle Pline. Et dans un roman qui s'appelle El Señor de Bembibre, paru en 1845, une grande partie du roman se déroule dans ce site extraordinaire de Las Medulas. Donc, il y avait une espèce de tradition humaniste qui rapprochait ce site du texte de Pline. Cette tradition, peu à peu, s'est oubliée. Pourtant, en 64, quand je commençais à travailler sur ce thème, je me souviens d'un jour, d'un matin de juin 64, où j'étais à l'Institut géologique et minier de Madrid, et je compulsais les articles, je faisais de la bibliographie, et voilà que dans un article, je tombe sur une photographie en noir et blanc, qui est en gros ce que vous voyez ici. En noir et blanc, bon, c'était déjà impressionnant. Mais ceci, une mine romaine. Alors là, mine romaine, comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble plutôt à des Badlands. C'est un relief tout à fait surprenant. Et je me suis décidé à partir pour Las Medulas, et trois semaines après, j'allais faire un tour à Las Medulas. C'est le début de mes aventures à Las Medulas depuis 1964. Au fur et à mesure que passait le temps, j'ai scruté le terrain, j'ai travaillé avec des étudiants, avec des collègues, nous avons réfléchi là-dessus, et je dois dire que chaque fois que je me penche sur ce texte de Pline, chaque fois que je le mets en rapport avec les vestiges du site, je trouve d'autres choses qui me paraissent intéressantes. Donc, nous allons attaquer maintenant cette mine de Las Medulas dans le cadre du titre de la conférence « L'utilisation de l'énergie hydraulique dans les mines d'or romaines du nord-ouest de l'Espagne ». Et c'est le site de Las Medulas qui va nous retenir. Las Medulas peut être une origine métalla, hein, les mines dans en latin, peut-être, mais il y a aussi d'autres étymologies possibles. Je ne veux pas aller plus loin. Voilà. Alors, Las Medulas, vous voyez où ça se trouve. Nord-ouest, nous sommes ici, les Astures sont là. León, plus loin, Astorga, l'ancienne Asturica Augusta, la une ville la plus importante de la zone, Astorga est par ici à peu près, et vous avez donc, pas loin de Ponferrada, au sud-ouest de Ponferrada, le site de Las Medulas, qui, vous le verrez, est un grand cirque avec ses aiguilles résiduelles que vous avez vues sur la diapositive précédente. Dans le courant de l'exposé, je ferai allusion à d'autres exploitations d'or qui sont romaines, qui sont dans ce secteur, dans la montagne du Teleno, qui étaient travaillées également avec la force hydraulique, mais c'était un autre type de gisement. Alors, maintenant, évidemment, il faut commencer par savoir quelles sont les conditions de gisement de l'or dans ce massif d'alluvions tertiaires qui se trouve sur les bords d'un bassin d'effondrement qui s'appelle le Bierzo, et c'est juste sur le bord oriental que se trouve le site, et là, vous avez une répartition des terrains dans l'état où se trouve aujourd'hui le secteur, c'est-à-dire après exploitation par les Romains. Alors, vous avez ici un petit texte qui vous explique que ce remplissage s'est fait avec trois formations alluviales successives, une formation qui n'est pas aurifère, qui est ici, qui provient sans doute de l'érosion du socle primaire, et là, des dépôts successifs qui proviennent, d'après la théorie classique, la géologie classique de Las Medulas, qui proviennent du secteur, d'un secteur situé à l'est, un peu dans cette zone du Teleno dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, à l'époque miocène, d'énormes transports de débris par l'eau, un énorme cône de déjection ici, peut-être de 3 km avec un canal d'alimentation, un canal fluvial de 3 km de largeur, et les accumulations successives. Et comme les terrains, nous le verrons tout à l'heure, sont aurifères, les terrains qui sont en amont de ce cône de déjection sont aurifères, il est normal que dans les débris arrachés par l'érosion et par l'eau aux zones primaires, il est normal qu'il y ait de l'or. Alors, une petite description d'après ce schéma. Vous avez les terrains qui sont indiqués. Ces terrains-ci, nous y verrons tout à l'heure, qui sont les plus pauvres en or, qui est la formation dite Las Medulas, parce que c'est là qu'on la trouve la plus abondante. Au-dessous, Las Medulas, la formation Santalia. Et vous avez les teneurs en or qui sont indiquées ici. Ce sont des teneurs en milligrammes. Elles ne sont pas très fortes. Les parties les plus riches sont à la base de la formation Santalia, dans les parties proximales, et les paillettes sont très petites, et nous avons une teneur de 300 mg au mètre cube, ce qui est vraiment très peu, et pourtant ce sont les parties les plus riches. Alors, le cirque de Las Medulas se trouve ici, ces tracés noirs indique la forme du cirque ici, et de cet endroit-là, nous voyons le paysage qui est ici, celui que vous avez vu tout à l'heure. La suite. Alors, comme je vous le disais, la roche mère travaillée par l'érosion renferme de l'or. Les sédiments qui sont arrachés par l'érosion sont transportés au tertiaire, au miocène, fin du tertiaire, par l'eau, par des grandes quantités d'eau, et viennent se déverser dans ce bassin d'effondrement du Bierzo, et le colmate. Au cours des temps géologiques qui ont suivi, une partie de ces sédiments a été emportée, mais sur le secteur oriental, une masse de sédiments est restée accrochée. Ces montes dont parle Pline est restée accrochée au bassin d'effondrement et ont été exploités. Donc, les sédiments transportés sont aurifères, mais faiblement. Et les niveaux les plus riches, comme je vous le disais, sont situés ici, à la base de la formation Santalia, faciès proximal, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus proche de la racine du cône d'éjection, lorsqu'il y avait une compétence aquatique énorme, et les niveaux qui sont pratiquement stériles, c'est-à-dire ceci, plus la formation de Las Medulas, pratiquement stériles, ont jusqu'à 100 mètres de hauteur, d'épaisseur, de puissance. Donc, si nous partons de ce constat, que c'est à ce niveau que se trouvent les teneurs les plus intéressantes, ici, n'est-ce pas ? Ça, sur tout ceci, là, ça commence à diminuer, et là, c'est très faible. On peut considérer que toute cette épaisseur ici est pratiquement stérile. Donc, que si l'on veut exploiter quelque chose qui soit rentable, c'est-à-dire les niveaux inférieurs, eh bien, il faut se débarrasser des niveaux supérieurs, les évacuer sans trop de précautions, sans les laver. Et nous verrons tout à l'heure, avec ce que dira Jean-Louis Borde, comment les Romains s'y sont pris, et on va le voir aussi maintenant, mais comment mécaniquement tout cela s'explique. Donc il fallait abattre ces niveaux, les évacuer avant de traiter par lavage les niveaux riches pour récupérer l'or qu'ils contenaient. La suite. Alors, nous allons suivre le plan suivant dans cet exposé. Pline l'ancienne histoire naturelle, la ruina montium, vous avez vu tout à l'heure, l'effondrement des montagnes. Disons que cette expression ruina montium, on l'utilise pour identifier ce type d'exploitation. Et nous allons examiner le texte en rapport avec le paysage, et je ferai personnellement une lecture archéologique et parfois stylistique, vous allez le voir. Alors la ruina montium, voici les vestiges de cette ruina montium, du dernier état du site. Le site a été exploité à peu près de la fin du règne d'Auguste, début du règne de Tibère, jusqu'à fin du 2e, début du 3e siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. On a diverses données archéologiques qui l'indiquent, des sites d'habitat qui ont été fouillés dans le secteur, d'autres sites aurifères dans la région fouillés également et qui sont datés du 1er et du 2e siècle. Donc voilà, la durée d'exploitation, pas tout à fait, enfin, ou à peu près 2 siècles. Donc Pline, s'il a vu cela, c'est en 73 ou 75, après Jésus-Christ, au moment de la grande exploitation. Et il a vu le site à un moment de son exploitation, pas à la fin. La fin, c'est nous qui la voyons aujourd'hui. Voilà ce que l'on voit quand on est là-haut, sur le haut de la falaise qui domine vers l'ouest le grand cirque de Las Medulas, toutes ces aiguilles résiduelles qui font 60, 80, 100 mètres de hauteur et qui constituent un paysage magnifique au milieu des châtaigniers. Je vous ai dit tout à l'heure que ce site avait servi de scénario, de paysage à plusieurs épisodes du Seigneur de Bembibre et le roman de Gil de Carrasco. Effectivement, la première fois que j'ai pénétré, je me souviens, ces photos sont de cette date, 64, dans ce secteur, d'abord il n'y avait personne, sauf le petit village, mais il fallait venir à pied par un chemin de 10 km épouvantable, les voitures ne passaient pas, donc j'arrivais dans un autre monde. Et c'est ce que je veux traduire ici par ces restes pittoresques qui marquent le résultat de l'exploitation. La suite. Alors vous avez ici... zut, voilà. Non, c'est avant. Voilà. La description de Pline, elle est là. L'abattage des terrains. Vous avez le texte, ici. Je l'ai remis quelques fois là pour mieux expliquer. Le cirque de Las Medulas, vous commencez à être familier avec lui. Nous sommes là, la crête, la falaise est ici. Le cirque et là, avec ces aiguilles résiduelles. Et il y a, sur les parois du cirque, des restes de galeries. Ici, par exemple, vous en voyez une énorme, nous y reviendrons tout à l'heure, des restes de galeries qui sont, comme dit, tracés sur de vastes étendues. Les mineurs ont des lampes pour y voir quand même un peu. Il y a des trous dans les galeries où étaient placées des lampes. On voit encore la fumée. Et ces lampes qui servent aussi à mesurer la durée du travail. Et de nombreux mois durant, les mineurs ne voient pas les lumières du jour. Voici un archéologue, alors jeune, c'est pas moi, qui sort d'une de ces galeries que nous venions d'explorer. Donc nous avons des vestiges assez importants, ici dans le Grand Cirque, et nous verrons tout à l'heure dans trois petits cirques, les derniers qui ont été exploités sur le flanc sud du site, qui correspondent tout à fait à ce que raconte Pline, la suite. Alors ce type d'exploration porte le nom d'Arugiae. Arugiae, ce n'est pas un mot latin. C'est un mot qui a suscité beaucoup d'études. La dernière est de Javier de Hoz, un spécialiste espagnol des langues pré-romaines dans la péninsule ibérique. Il pense, après une grande démonstration, il pense que le mot est un emprunt au langage local indo-européen. C'est un mot ancien et qui peut se rattacher à deux, peut-être trois racines. Une racine reo, qui signifie saper, creuser, et une racine rug, qu'on trouve dans regar et l'espagnol par exemple, et qui est en liaison avec l'eau, canal d'eau, canal de transport de l'eau, et Arugia a un correspondant espagnol bien connu qui est Arroyo, le ruisseau. Donc, si vous voulez, la runa montum, qui est proprement l'effondrement de la masse alluviale, peut se caractériser à la fois par la racine effondrement et par la racine qui se rapporte à un canal transportant l'eau. Alors, ce type d'exploitation, voilà, bon, les crevasses s'effondrent, c'est dangereux, n'est-ce pas, le travail de mineur, tout le monde le sait, et on laisse des arcs à intervalles rapprochés pour soutenir les montagnes. Alors voici un schéma de Jean-Louis Borde qui repassera tout à l'heure. Je l'utilise ici pour montrer comment il imagine la montagne sapée sur une quarantaine de mètres de profondeur, avec donc des galeries qui se coupent à angle droit et qui laissent des piliers entre les arcs. Alors ces piliers, une fois le travail de préparation achevé, on abat les piliers des arcs en commençant par le plus loin, qui est ici, n'est-ce pas ? Attention, c'est dangereux, il y a encore des ouvriers là-dedans, il y a ceux qui abattent les piliers des arcs. Et alors il y a un bonhomme qui est là-haut, et qui est la vigie, hein, et il surveille pour voir l'apparition de la première crevasse, et quand la première crevasse va apparaître, ça veut dire que l'effondrement va se produire, vite, il crie, il fait des signes pour qu'on avertisse les gens qui sont là d'avoir à sortir rapidement pour éviter l'effondrement. Et vous avez la description qui est ici, l'effondrement s'annonce et seul s'en aperçoit le veilleur placé au sommet de la montagne, de cette montagne, de la voix et du geste, il fait évacuer les chantiers et lui-même descend comme en volant de son sommet. Je vous disais tout à l'heure que moi, j'ai l'impression que Pline a vu cela. Et là, vous avez cette impression vécue qui est restée gravée dans sa mémoire du veilleur qui, en courant, descend du haut de la montagne. Il descend dit Pline. C'est ici, par intercoué, ipse deolat. Et alors, la montagne, la description continue, la montagne brisée s'écroule et se répand avec un fracas que l'esprit humain ne peut concevoir, avec un souffle incroyable. Jean-Louis Borde peut-être commentera ce passage tout à l'heure. Et voilà, la fin, les mineurs contemplent en vainqueur la nature en ruine, ce que vous avez là. Tu continues, s'il te plaît. Pardon, il faut que je regarde l'heure, parce qu'il ne faut pas que je parle trop. Alors, on revient tout à l'heure. Alors, ça continue. Ici, vous avez le texte, vous voyez. Nec tamenaduc aurum est nec sciere esse cum foderant. Et pourtant, ils n'ont pas encore d'or, et tandis qu'ils creusaient, ils ne savaient pas s'il y en avait. Cette phrase est un peu énigmatique, beaucoup moins si nous la rapprochons de ce que j'ai dit tout à l'heure et de la colonne stratigraphique de Las Medulas qui signale que les niveaux riches sont à la base de la formation Santalia. Donc, tant qu'ils travaillent là-dedans, bon, de l'or, ils n'en voient pas. Et ils le verront à la fin, c'est après qu'il y en aura. Donc, ça veut dire qu'il faudra comme je le disais tout à l'heure, il faut enlever toute cette couverture stérile. Voilà une photo qui montre comment se présentent les paillettes et les granules d'or. Les divisions sont des millimètres, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, nous allons dépasser cette étape, cette description, qui est la description du travail de mineur de SAP, comment ça se passe, et nous avons donc une masse qui est effondrée devant nous. La suite. Alors, deuxième point que vous avez ici, il faut de l'eau. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'ampleur du site, l'épaisseur des alluvions, surtout pour le lavage, mais aussi, nous le verrons, pour l'évacuation des déblais, demande de l'eau. Et alors, il y a un paragraphe ici assez remarquable par son ampleur et sa solennité qui commence et qui porte sur la description des aqueducs, sur leur fabrication et sur le travail qu'effectuent les arpenteurs et les ouvriers chargés de creuser la roche dans la montagne. Et je me suis permis donner ce titre à ce passage, parce que vous allez le voir, ce passage, stylistiquement, est un passage très soigné, comme le reste du texte d'ailleurs. Et alors que Pline passe pour avoir un style épouvantable, pour écrire très mal, sans se soucier de la syntaxe parfois et de la grammaire, voilà qu'avec des gens qui ont étudié de plus près le style de Pline, voilà qu'on rencontre, en particulier dans ce passage, des paragraphes qui montrent un travail littéraire absolument extraordinaire. Donc, à la gloire des arpenteurs et des constructeurs d'aqueducs de Las Médulas. Alors, le réseau est énorme. Nous sommes ici, à Las Médulas. Il y a des rivières qui passent au pied, à 300-400 mètres à Napic par rapport au site de Las Médulas. Il y a une montagne qui est ici, et vous avez des rivières qui circulent. Ici, le Rio Cabrera. Là, je ne me rappelle plus comment s'appelle le Rio qui descend de l'autre côté sur le Sil. Et un collègue, un mineur, qui travaille maintenant sur les aspects divers de Las Médulas, a étudié il y a quelques années de très près tout ce réseau. Il y a deux réseaux d'aqueducs, romains bien sûr, qui vont à Las Médulas, le réseau des canaux nord, il y en a deux aqueducs, et le réseau des canaux des aqueducs sud, qui est beaucoup plus important, il y en a au moins sept. Et je ferai deux remarques. Vous voyez que les canaux sont à un niveau supérieur, plus ils viennent de loin. Vous avez, par exemple, ce qu'on voit sur les flancs du Rio Cabrera, ce qu'on peut voir, les traces de ces aqueducs qui ont toujours frappé l'esprit des gens du pays. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tradition humaniste, mais il y avait aussi une tradition locale. Les restes de ces aqueducs, les gens les appelaient des carriles, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez passer avec des chars. Or, lorsque ça passait près du village, ces carriles servaient de chemin pour les travaux des champs, pour laisser passer ces chars aux essieux chantants, qui sont ceux de Galice et des Asturies. Alors donc, des aqueducs dont certains sont très longs, ils vont chercher l'eau ici, presque à la source, pas tout à fait, du Rio Cabrera. Vous voyez que nous sommes dans un fond de vallon et que le captage a lieu, comme il est naturel, dans la vallée. Tout à l'heure, cette remarque aura son importance, ainsi que la longueur de cet aqueduc qui fait 143 km de longueur. La suite. Alors voilà, la description, elle est là. Elle est là et, comme je vous disais, c'est assez extraordinaire. Alors, pour laver ces décombres, vous avez la traduction qui est au-dessous, je ne vais pas la répéter, on a conduit tout au long de leur trajet les courants d'eau jusqu'au sommet des montagnes. J'ai coloré ce passage parce qu'on traduit d'habitude du sommet des montagnes. Or, ici, l'ablative d'origine, on l'a après, donc serré a quintesimo plerumque lapide. On les conduit depuis 100 000. 100 000, ça fait 147 km. Tout à l'heure, j'ai dit un canal, le plus long de la Smedoulas, 143. Ce n'est pas, cette coïncidence n'est pas, je crois, là, par hasard. Alors, jusqu'au sommet des montagnes. Et plus loin, il faut qu'on veuille revenir. Ce sont là 1000 travaux, bien sûr. Et il faut donc que la pente soit rapide, de façon qu'au lieu de couler, l'eau se précipite. Ça, c'est plus compliqué. Aussi, l'amène-t-on aux points les plus élevés. Alors, je me suis interrogé. D'abord, j'ai donné des traductions, les premières, comme les traductions habituelles. Et puis, quand même, l'expérience du terrain m'a montré que les aqueducs arrivaient, par exemple, les derniers, arrivent ici, au point le plus élevé des Montes qui constituent ce site de la Smedoulas. À l'époque, à la fin des travaux, mais les Montes s'étendaient jusque par là, donc on peut supposer que les aqueducs arrivaient à ces points les plus élevés. Donc, nous n'avions plus ici des ablatifs d'origine, mais nous avions des, ce qu'on appelle des datifs de direction qui sont fréquents dans le monde de la poésie, chez Ovide, chez Virgile, par exemple, avec un exemple célèbre de l'Énéide, « Hic clamor caelo », les cris montent jusqu'au ciel, datif de direction, dit poétique. Quand j'étais élève, je me rappelle, quand on en trouvait, c'était « datif poétique » chez Virgile. Donc, ce datif de direction dit poétique. Et là, il y en a deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pline a emprunté à la poésie certaines tournures. Un autre, et nous l'avons répété ici deux fois, hein, altissimis partibus, jugis montium. Et comme j'avais proposé ce que j'avais écrit sur ce texte à mon collègue latiniste de Toulouse, Maximilien Montbrun, il m'a dit « Oui, tu as totalement raison, mais il y a bien d'autres choses. » Par exemple, il y a l'utilisation de la troisième personne du pluriel du parfait, en « ere », qui est poétique également. Hein, dans la prose, on trouve « erunt » et non pas « ere ». Donc, encore un emprunt, et nous en verrons encore deux ou trois par la suite. Donc, nous avons ici un texte qui est très précis, mais avec l'utilisation de tournures qui sont, comment dirais-je, un peu parfois ambiguës, qui sont plus concises. C'est pour cela que dans la poésie, on emploie dans un vers ce datif de direction au lieu de ad et in plus accusatif, qui fait lourd, les poètes emploient ce datif de direction. Donc nous avons ici, déjà on sent que Pline a vraiment travaillé ce texte. Et Maximilien Montbrun me fait remarquer que dans tout ce texte de Pline, nous avons ce qu'on appelle des clausules métriques. Clausules métriques, des fins de phrases, des fins de membres de phrases, qui se terminent par des assemblages de brèves et de longues, de syllabes brèves et de longues, vous les voyez ici, n'est-ce pas, les longues un trait, les brèves un petit demi-cercle, et que les prosateurs, à partir de l'époque de Cicéron, utilisent pour donner à leur texte une couleur artistique. On appelle cela des clausules métriques. Et il y en a ici. Il y en a sept, au moins sept dans ce passage. Il y en a d'autres dans le texte où vous les avez vus, il y en a d'autres ici, mais là, elles sont particulièrement denses. Alors, nous avons là trois aspects, trois choses, trois phénomènes, si vous voulez, qui montrent que le texte de Pline a été très travaillé. Que ce ne sont pas des notes, les notes qu'il avait prises au cours de ses visites, qu'il a jetées sur le papier, mais il les a véritablement, profondément travaillées. Et ce texte, avec, si vous le regardez de près, par exemple ici, Convales et intervala substructis canalibus unguntur, albi rupes in vege caeduntur, sedem quae trabibus cavatis praebere coguntur. Eh bien, vous avez une accumulation de mots qui ont du sens, qui font sens, des mots qui portent le sens. Et nous allons voir comment tout cela s'organise dans les diapositives suivantes, mais je voudrais que dès maintenant vous regardiez ce texte d'un latiniste, Pinkster, un article tout à fait récent, qui justement, à propos de ces emprunts par Pline à la langue poétique, conclut un de ses paragraphes de cette façon. Les textes scientifiques et la poésie ont en commun que les mots qui font sens, comme on dit aujourd'hui, sont plus importants que les mots fonctionnels. Des mots fonctionnels, vous n'en voyez pas beaucoup ici. Hein. Il y a un « et » et il y a un « quoi ». À Libye, nous y reviendrons dans un moment. Les éléments poétiques présents chez Pline peuvent être le résultat du partage qu'il fait avec la poésie, du même but, de la même intention communicative, se concentrer sur le contenu, sur le sens. Et j'avoue que, depuis que je regarde ce texte de Pline avec ses yeux, je trouve qu'il ne faut pas dire que les informations données par Pline sont fausses, elles sont justes, mais elles sont présentées dans ce savant désordre, dans cette espèce d'impressionnisme qui caractérise la langue de Pline. La suite. Alors là, on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, les canaux, les flumina, vous voyez, c'est aussi amplifié, hein, les aqueducs, canali, ça devient les flumina, arrivent au sommet des montagnes, vous revoyez la même diapositive que tout à l'heure, et voilà la longueur de l'aqueduc dont je vous parlais, et ces aqueducs ont une pente moyenne entre 0,1 et 0,2%, elle est plus forte dans les canaux supérieurs, comme vous les voyez ici, et comme l'a montré l'étude de notre collègue espagnol. Alors là, on se dit, mais il y a une contradiction. Praecaeps esse libramentum oportet. Il faut que la pente soit rapide. Or, les aqueducs n'ont pas une pente rapide. Vous avez eu la pente moyenne un peu plus forte ici, mais là, la pente moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, ce membre de phrase ne porte pas sur le tracé des aqueducs, mais sur leur arrivée au site. Et c'est là qu'il faut que la pente soit forte pour qu'on ait véritablement un grand courant d'eau qui puisse se précipiter pour transporter les déblais du travail du mineur, ce qu'on verra dans un instant et que j'ai déjà évoqué un peu plus tôt. Vas-y, la suite. Alors, on continue. Vous avez cette phrase qui est en bleu ici, avec là aussi des clausules métriques. Et alors, la traduction, c'est clair. Ravins et encellements sont franchis par des canaux posés sur des supports, substructis canalibus. Ailleurs, des roches inaccessibles sont entaillées, contraintes à offrir une assise à des troncs d'arbres évidés. Vous allez voir comment, dans la réalité, se présente cet ensemble de techniques pour tracer et construire les aqueducs dans la montagne. Parce qu'attention, nous sommes là, par exemple, à peu près 1800 mètres d'altitude. Alors, vous avez des barres de quartzite qui sont séparées par de profonds ravins. Alors, ça, le mot qui est traduit par ravin, c'est Conwales, vous l'avez ici. Et vous avez, entre il y a des tunnels qui marquent le passage dans des aqueducs dans les barres de quartzite. Et entre les deux tunnels, vous avez un mur à plusieurs degrés qui supportait, vous avez sous Sustructis canalibus, un mur qui supportait l'aqueduc. Vous avez les dimensions qui sont là, je n'insiste pas à la suite. Alors, il y a les conwalles, et là, il y a les interwalla. Interwalla, c'est l'encellement. Interwalla, par exemple, c'est entre des walli ou entre des walla. Vous savez que dans les fortifications césariennes, par exemple, la guerre qui défend le camp romain est surmontée d'une palissade en bois qu'on appelle les wallus. Ce qui est entre les wallus, c'est un encellement. Et dans la nature physique, j'ai traduit cela par encellement, ça correspond entre deux crêtes. Il n'y a pas d'autre moyen de faire passer l'aqueduc qu'en substructis canalibus, qu'en les supportant par quoi ? Bien, nous allons le voir. Nous avons un seul exemple de cette technique. Pour cela que je pense que Pline, ou bien a vu ceci, c'était un peu plus loin vers le Téléno, dans d'autres types d'exploitation, mais nous avions, quand nous travaillions sur les photographies aériennes, et vous les avez ici, vous avez le canal n'est-ce pas, qui est tracé, qui est là, un canal postérieur. Et vous avez aussi, à côté, une série de petites taches blanches. Nous appelions ça, avant d'aller sur le terrain, les Fogara, la chaussée des Fogara, comme ces puits dans les terrains désertiques qui vont... marque le tracé d'un canal souterrain. Et en fait, lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons vu qu'il s'agissait de masses de cailloux, de grosses pierres, avec un vide au centre, il y en avait 43. Ce sont les restes des piliers qui étaient construits pour supporter l'aqueduc à un endroit où il fallait le conduire là-bas de l'autre côté, mais il fallait passer par un encellement dont le fond était plus bas que le haut des crêtes. Donc, on a construit ces 43 piliers qui avaient 3,50 m et 4 m de hauteur vraisemblablement, et là-dessus ne pouvaient passer que des trabes kawatae, des troncs d'arbres. Trabis, c'est la poutre. Oui, certes. Mais dans le langage poétique, trabis, c'est l'arbre. L'arbre élancé, l'arbre de haute futaie. Donc, la suite, vous avez la restitution graphique de ce que pouvait être cet aqueduc porté sur des supports. Ce sont évidemment des troncs d'arbres évidés. Et là, nous avons un commentaire par la réalité des choses de ce passage de Pline. La suite. Ça, j'aurais pas dû le voir ici. Tu l'enlèves. Je l'avais supprimé. Et alors, la fin du paragraphe, on arrive au paragraphe suivant. Toujours ces magnifiques descriptions de Pline. Ceux qui entaillent le roc sont suspendus à des cordes, si bien que de loin on les prend plus pour des oiseaux que pour des animaux. Le plus souvent, c'est suspendu en l'air. Qu'ils mesurent des niveaux et tracent à l'avance des lignes pour le parcours des canaux, et là où l'homme n'a pas la place de poser ses pas, passent les rivières amenées par l'homme. Imaginez cette peña, ce rocher, avant que les Romains n'interviennent, et il devait se prolonger de quelques mètres tout nu. Cette fissure a été utilisée pour le passage d'un canal. Vous avez le canal qui passe ici. Vous avez un personnage ici qui vous fait les talons, en quelque sorte, et vous avez les restes des murs en escalier qui supportaient ce canal. Donc, pour mesurer, pour placer le repère que suivraient ensuite les ouvriers, eh bien, il fallait que les arpenteurs soient suspendus à des câbles, comme il dit, si bien, et ça, c'est une deuxième de ces impressions, de ces choses vues, comme disait Victor Hugo, qui me fait penser que Pline a vu la chose. On dirait des oiseaux. Voilà. Alors, maintenant, nous arrivons à Las Medulas, la fin des aqueducs, les bassins qui sont au sommet des montes, de ces montes qu'a vu Pline d'en bas, il les a parcourus aussi. Et c'est là que se trouvent les grands réservoirs qui vont être utilisés pour projeter l'eau avec force. Il faut que la falaise soit haute, que la pente soit praekeps, comme je disais tout à l'heure, libramentum praekeps, pour que ces déblais, ceux du lavage de l'alluvion riche en or et ceux et le lavage des alluvions stériles, le transport des stériles, puissent s'effectuer loin de ce secteur du cirque et du plateau qui se trouve à l'ouest. Alors voilà un des bassins, un des plus grands. Vous avez la description des bassins selon Pline. Alors Pline décrit des bassins carrés. Il se trouve que celui-là est allongé, que celui-ci, là, qu'on voit à peine, mais on le voit mieux ici en bas, est rectangulaire. Mais Pline, nous avons les restes de l'exploitation à la fin, n'est-ce pas ? À l'époque de Pline, peut-être, on faisait des bassins tout à fait carrés. On en connaît, par exemple, sur le Télé, certains. Alors voilà la description des bassins de grande contenance. Par exemple, celui-ci contient entre 16 000 et 18 000 mètres cubes, et celui-ci à peu près autant. Et vous avez d'autres restent ici sur la crête. Donc nous arrivons à la fin de ce processus, de cette construction de l'infrastructure destinée à la fois destinée à transporter de l'eau nécessaire pour le lavage des niveaux aurifères et nécessaire aussi pour l'évacuation le plus rapidement possible des stériles, la couverture stérile au-dessus des niveaux aurifères et l'évacuation des stériles provenant du lavage des alluvions aurifères. La suite. Alors, comment traiter les niveaux les alluvions aurifères? Là, voilà, vous avez donc allium, allius et etiamnum in plano labor. Vous avez vu comment se présente le site, le cirque avec sa falaise, les aiguilles résiduelles, et puis une espèce de plateau qui est, je pense, que c'est sur le plat, au pied de la falaise, qu'on lave l'or. Alors là, Pline va très vite, on creuse des fossés appelés agogae, un mot qui vient sans doute du grec, agein, n'est-ce pas ? C'est là que va passer l'eau chargée de boue et d'alluvions, et dans laquelle, le canal dans lequel on va piéger l'or. On va le piéger avec de la bruyère, oulex, un terme qui n'est pas un terme latin, et pour Javier Leos, c'est un terme local, je le pense aussi, qui a donné une grande postérité dans les langages, dans les parlers régionaux de cette région. Donc, nous avons la bruyère qui est ici. Elle est asper et aurum retinas. Vous avez, par exemple, les branchettes de bruyère ici, et vous voyez qu'il y a des poils, n'est-ce pas, une gaine poilue qui est sans doute ce à quoi fait allusion Pline. Dans les années 60, lorsque l'or était à un haut niveau, les entreprises modernes, Rio Tinto, Peñarroya, se sont intéressées à ces dépôts aurifères et la société minière et métallurgique de Peñarroya avait construit ce sluice, c'est ainsi qu'on appelle les canaux dans lesquels, à l'époque moderne, on fait passer l'eau chargée de boue avec du mercure pour piéger l'or. Ça, ce n'était pas du mercure, c'était des tapis de bruyère. Vous voyez le tapis de bruyère qui est ici. À l'extrémité, je crois qu'ils avaient mis une peau de bélier, rappelez-vous la toison d'or. Et une fois la bruyère brûlée et la peau de bélier lavée, il y avait effectivement quelques paillettes d'or qui avaient survécu. La suite. Pardon, tu reviens un instant ? Oui, alors moi, j'imagine quelque chose comme cela. Ce n'est pas le torrent qui passe dans un lit énorme et qui est garni de bruyère. Là, Pline confond un peu les deux fonctions de l'eau, qui est pour laver les terres aurifères, mais qui est aussi utilisée pour évacuer les stériles. Et je verrai le traitement un peu dans cette image, qui est une image d'Afrique noire dans les années 30, où vous avez tout un tas de sluices, de canaux fermés par des branches. Ceux-là sont supportés, comme il dit, en terrain accidenté, ils sont surélevés. Parfois, ils sont creusés dans le sol. On appelle cela des ground sluices. Et c'est ainsi que je vois l'exploitation de l'or. Alors, il reste l'évacuation, on va le voir rapidement maintenant. Voilà, oui, le travail. La bruyère est séchée, brûlée, sa cendre est lavée sur un lit de mottes d'herbe pour que l'or s'y dépose. Et ça, c'est l'interprétation d'Agricola, n'est-ce pas, qui est bien connu, son livre sur les mines, De Re Metallica de 1556, avec une magnifique gravure sur la façon dont il interprète, lui, ce texte de Pline, parce que ce texte de Pline, il l'a connu. Et vous avez ici le bassin qui est alimenté, le lavoir qui est alimenté par ce canal qui transporte l'alluvion aurifère. Là, on brosse, n'est-ce pas, pour que la boue se dégage bien et puisse filer avec l'eau. Et par sa densité, qui est 19,5, l'or est moins entraîné que les particules de roche et de terre et se déposent sur ces mottes qui sont lavées ici. C'est une vision d'un homme du Moyen-Âge. Est-elle juste, est-elle vraie ? Peut-être. Voilà ce qui pouvait advenir une fois que l'or était passé dans les canons en bois qu'on a vus tout à l'heure. La suite. Voilà, alors la conclusion de Pline, une conclusion majestueuse, ainsi la terre s'écoule et glisse dans la mer. Je reviens au site de Las Medulas, ici le cirque, les aqueducs qui arrivent par ici, le plateau qui est là, avec les sorties des canaux qui amènent les sorties des canaux qui amènent les stériles jusqu'au ruisseau qui est ici, le ravin de la Balauta. Et alors, cette nappe de déblais que vous voyez ici, Hein, c'est il faut voir la photographie inversée. Si vous voulez, le cirque de la Médoula, c'est ici. Nous regardons, nous, vers l'est, alors que le schéma regarde vers l'ouest. Et vous avez cette immense nappe de déblai qui est venue jusqu'ici, qui a bouché le torrent et qui a provoqué la formation en amont d'un lac qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle le lac de Carruthédo. Donc, vous voyez le transport des déblais qui ensuite partaient et va jusqu'à la mer, les débris de la montagne s'y dissolvent, et voilà pourquoi l'Espagne a fait avancer ses terres loin dans la mer. La suite, et voici une vue de ces restes de canaux par où passaient les déblais. Vous voyez le cirque, la fermeture du cirque ici, la falaise, la zone des aiguilles résiduelles, une plano labor sur le plat. Il faut, là on va laver les terres aurifères, et puis surtout, on va évacuer par ces grands canaux, dont il reste aujourd'hui des espèces de vallons larges qui sont colmatés à leur issue, et c'est par ces canaux que l'eau allait sur la nappe de déblai et partait, comme dit Pline, loin dans la mer. La suite. Alors, très rapidement, une quatrième partie dans ce commentaire, c'est que, l'observation que nous avons faite des vestiges de canaux, etc., nous a montré quand même quelque chose d'intéressant. En particulier, lorsqu'on a travaillé sur les petits cirques méridionaux, voici le grand cirque ici, les petits cirques méridionaux qui sont de la fin de l'exploitation et où il y a des réseaux de galeries. La suite, voici par exemple, entre deux de ces petits cirques, nous avons exploré une galerie qui conduit d'un cirque à l'autre, qui est sans doute une galerie d'exploration à la base du gisement. Et nous avons constaté qu'il y avait là des traces du passage de l'eau. Par exemple, ici, vous avez les traces de pics des anciens mineurs. Ici, les arêtes sont vives. Sur cette hauteur, qui fait à peu près 40 cm, 50, les arêtes sont émoussées. Et on voit très bien que c'est par le passage de l'eau. Et on l'a ici aussi. La suite, encore dans le grand cirque, le grand réservoir que vous avez vu tout à l'heure, qui communique avec des galeries intérieures, l'eau se met en pression dans les galeries, et nous supposons ici, une chose que ne dit pas Pline, que l'eau a servi aussi à l'abattage de l'alluvion. C'est-à-dire, l'abattage n'était pas seulement mécanique par le travail de sape que nous avons vu tout à l'heure, mais l'eau, les grandes quantités d'eau ont servi, mais ça, Jean-Louis Borde le commentera mieux que moi dans un instant. La suite. Voilà, et encore à la base de la, on trouve ça à la base de la grande falaise dans le grand cirque, des matériaux effondrés. Et là, vous avez une masse de matériaux avec des traces du passage de l'eau, comme vous le voyez. La suite. Bien, alors, d'après l'état final des vestiges, celui que nous avons sous les yeux aujourd'hui, il apparaît que la force hydraulique a été utilisée à Las Médulas, non seulement pour évacuer les déblais, les stériles, mais aussi comme force d'abattage. Alors, ces observations sont évidemment incompatibles avec le témoignage de Pline l'Ancien, qui décrit simplement la méthode du block caving, vous avez vu, avec ce réseau de galeries, on abat la tête des piliers, etc., le block caving à la romaine, où la masse, une fois minée, s'écroule sous son propre poids. Dans sa description, l'eau n'intervient qu'ensuite pour le lavage de l'alluvion et pour le transport des stériles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. Jusque vers les années 75 au moins, Pline, la méthode de la runa montium est une méthode que nous appellerons sèche, comme nous avons vu, de l'abattage des terrains proprement dit. La force hydraulique en tant que force de pression n'aura été introduite que par la suite et jusqu'à la fin des travaux. La suite, ben la suite, c'est Jean-Louis Borde qui va vous la dire. Non, pas ciel, non, voyons.